Florio et je suis ravie de vous retrouver sur CFM Cordes dans l'émission « Comment ça va bien aujourd'hui ?» dédiée au bien-être, aux thérapies diverses et variées et sans compter dans la joie et la bonne humeur. Wouh ! Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2021 et en cette période particulière qui est de fêter aujourd'hui nos chers défunts. Alors aujourd'hui, je reçois un invité, Marc Meurice, qui est tarologue. Salut Marc, comment ça va bien aujourd'hui?
Oui.
Merci. Alors dis-moi Marc, tu étudies les cartes du tarot de Marseille et tu tentes d'en percer les mystères, est-ce bien cela?
Oui, c'est ça. C'est ça, je suis tarologue, je tire les cartes, mais surtout je suis intéressé par... je suis émerveillé chaque fois de voir comment ça fonctionne. Et je considère que je suis en recherche permanente sur le sens des cartes et sur ce que le tarot peut nous apporter.
Ok, merci. Alors, avant de nous parler voilà, de ton parcours, etc., si tu veux bien, on va commencer par... tu es natif d'où et tu vis où?
Je suis quoi?
Natif.
Ah, natif.
Tu n'es où?
Je
suis belge. La cigogne est apposée où?
Je viens de Belgique.
Ok.
Et puis la deuxième question, c'était quoi?
Tu vis où?
Ah oui, je vis en France. Je vis dans le Lot, près de Figeac, dans un petit village qui s'appelle Prandaigne. Mm-hmm. Et on s'est installé là il y a 4 ans. C'est un changement de vie qui m'a amené là et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pratiqué le tarot de façon professionnelle. Donc c'était vraiment une rupture avec mon ancienne vie, si je peux dire.
Ok, ça fait combien de temps que tu vis en France?
Ben, je viens de le dire.
Ouais.
Ouais. Hmm? Je le répète alors.
C'est ça.
Faut écouter un peu.
Repeat, please.
Mais je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit 4 ans, je crois.
Voilà,
oui, mais on va dire 4 ans alors.
Bon, alors, comme vous pouvez remarquer, chers auditeurs, chères auditrices, on se marre beaucoup au studio avec notre invité Marc Meurice. Ok, super. Alors, j'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu de ton passé, si tu veux bien.
Oui. Donc, je suis ingénieur. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis ingénieur tarologue, parce que déjà, ça fait un peu de confusion dans l'esprit des gens et du coup, ça capte l'attention. Qu'est-ce qu'il a dit?
Ouais, t'es ingénieur, tarologue.
Mais donc, je suis ingénieur, j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai développé des consoles des jeux d'orgue, ça s'appelle des consoles de contrôle de l'éclairage dans les théâtres. Mm-hmm. Puis, j'ai travaillé dans l'industrie du jeu vidéo, j'étais programmeur, puis responsable d'une boîte. Et puis, la boîte a fait faillite et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, ma compagne et moi, de changer de direction. Et on a cherché un endroit où se poser, on est arrivé ici. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, finalement, le tarot, ça faisait déjà une 10-15 ans que je le faisais de façon, je dirais, comme un hobby avec des amis. Et je me suis dit, tiens, je pourrais en faire une activité professionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment, donc il y a 3-4 ans, disons, à me présenter comme tarologue, c'est-à-dire quelqu'un qui tire les cartes et qui utilise le tarot de façon professionnelle.
D'accord, ok. Donc tu dis il y a 10-15 ans en arrière, finalement il est arrivé du ciel le tarot, par hasard
Voilà.
Merci.
En fait... En fait, c'est pas une rupture avec mon activité précédente parce que en tant qu'ingénieur, je me considérais déjà comme un chercheur. J'étais intéressé et j'ai rencontré il y a une dizaine d'années des voyantes qui me disaient des choses incroyables sur moi. À cette époque-là, je ne croyais ni à l'hypnose, ni aux anges, à rien du tout. Je ne croyais pas à l'invisible. Je ne croyais qu'au concret. Et ces personnes me disaient des choses. Étrange sur les gens qu'il y avait autour de moi. Je me disais, tiens, ce collaborateur, il est comme ça, comme ça. Et puis celui-là, il est comme ça. Cette personne-là autour de toi, elle est comme ça. Et c'était étrange pour moi parce que c'était juste. Mmh. Et j'ai vu 3 personnes sur 2 années. J'étais intéressé par ça. Et chacune de ces personnes utilisait le tarot. Donc, à un moment, je me suis dit, mais donc le tarot, ça permet peut-être de capter des choses que j'ai pas l'habitude de capter. Et donc, je me suis positionné en chercheur. Je me suis dit, voyons voir à quoi sert le tarot et comment on peut l'utiliser. J'ai commencé à tester le tarot sans lire de bouquin, donc je suis tout à fait autodidacte, mais je me suis posé des questions, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. C'est comme ça que ça a commencé.
D'accord.
Je sais pas si c'était la question, mais la réponse était bien.
Attends, j'essaie de me souvenir. Ah, si, c'est ça. Ok. Ok, ça marche. Et autour du tarot, à ce moment-là, ok, autodidacte, c'est super. Je veux dire, je comprends tout à fait ce que tu dis, puisque moi-même, je le vis pour certaines choses hein, par rapport à mon métier.
Ah, on va pouvoir parler de toi, du coup.
Ouais, voilà, c'est ça. Allez, vas-y, Marc.
À moins que Jack ait quelque chose à nous dire.
Non, non, lui, il reste dans l'ombre. Et du coup, tu t'es intéressé un peu plus que, enfin, autour du tarot, tout ce qui est, tu vois, l'ésotérisme, etc.
Oui, c'était une ouverture, je dirais une ouverture complète vers l'invisible. Alors, ça ne veut pas dire que je pratique, mais depuis une dizaine d'années, je rencontre des voyants, des médiums, des gens qui font des choses bizarres, des exorcistes, des chasseurs de fantômes, enfin, c'est juste par curiosité. Donc, j'ai rencontré beaucoup de tarologues aussi, hein, et enfin des tarologues ou des cartomanciens, c'est des gens qui tiraient les cartes avec des visions très très différentes. Donc, il y a des gens qui vont plutôt dans la prédiction, prédiction de l'avenir, des gens qui font de la voyance pour retrouver, par exemple, des objets disparus, des choses comme ça, et puis des gens qui sont plus dans mon approche, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le tarot psychologique, c'est-à-dire que c'est plus un accompagnement de coaching, de recherche de sens, de connaissance de soi. Donc, je suis assez loin de la voyance parce que je vais déjà pas faire de prédiction. Hein, si on me demande est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans 6 mois, moi, je vais ramener la question aujourd'hui et je vais demander est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mmh. Et souvent, c'est intéressant parce que il y a des gens qui disent mais bien sûr, je veux rencontrer quelqu'un, mais elles sont tellement bien dans leur solitude, dans leurs habitudes que en fait, elles sont pas du tout prêtes à changer ça. Et donc, si elles rencontrent des gens, ça va être des gens qui leur conviennent pas pour pouvoir les virer le plus vite possible et pouvoir revenir à leur solitude. Mmh. Et donc, c'est des choses comme ça qu'on va identifier. Mais malgré tout, j'ai des amis qui sont pas du tout dans cette optique-là et on échange. Donc, pour moi, ça reste complètement ouvert dans le cadre de ma recherche. C'est peut-être plus structuré dans le cadre de ma pratique.
Mmh. Ok, super, merci Marc. Eh bien, écoute, si t'es ok, on va faire une petite pause musicale. Et puis nous allons écouter M. Mojo.
Pourquoi toutes ces caresses inégales quand elles ressentent maison d'animal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Laisse-toi aller, c'est que ça seul.
C'était M Mojo. Et pour ceux qui nous écoutent actuellement, vous êtes bien à l'émission Comment ça va bien aujourd'hui avec notre invité Marc Meurice, tarologue. Marc, ça va toujours bien ?
Aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui ? Ok. J'aimerais que tu me, si tu veux bien, nous expliquer et expliquer aux auditeurs et auditrices, c'est quoi la différence entre, tu vois, entre une voyante, une cartomancienne, une tarologue, enfin tout ça aussi au masculin évidemment, mais tu vois, pour que ce soit plus précis.
Alors, cartomancien, ça veut dire qu'il tire les cartes à la base. Maintenant, la cartomancie est souvent assimilée à la voyance ou à la prédiction de l'avenir. Donc, typiquement, la cartomancienne, la plus célèbre, c'est Madame Irma. Enfin, elle n'est pas célèbre, mais dans l'inconscient collectif. Donc, c'est quelqu'un qui va lire les lignes de la main, qui va vous prédire des choses et qui va vous annoncer des choses. Ça, c'est plutôt ce qu'on met sur cartomancienne. Bien qu'à la base, cartomancie, ça veut juste dire prédire la... Enfin, si, ça veut dire... Mancie, c'est prédire l'avenir avec les cartes. C'est pour se différencier de ça qu'on a... créer le terme tarologue, même s'il n'est pas encore vraiment beaucoup utilisé. Le tarologue, c'est quelqu'un qui utilise le tarot. Après, des tarologues, il y en a toutes sortes. C'est-à-dire qu'il y a des voyantes qui prédisent l'avenir avec le tarot. Et puis, comme je vous disais, il y a une autre approche qui est l'approche de ce qu'on appelle tarot humaniste ou psychologique, qui n'est plus du tout basé sur la prédiction, mais qui est un accompagnement psychologique. Il y a énormément, d'ailleurs, dans les tarologues, de gens qui sont psychologues, voire des gens qui font de la thérapie. Hein, peut-être le plus célèbre, c'est Georges Colleuil, qui est un psychiatre qui a développé le référentiel de naissance et qui utilise le tarot dans son cadre de thérapeutique. Moi, je ne suis pas psychologue, mais je suis très psychologue, donc ça va.
Tout va bien.
Je me débrouille. Alors, ce qui est intéressant, malgré tout, soyons clairs, les gens ne viennent pas en thérapie chez moi. Souvent, ils viennent avec des questions assez légères. Donc, je ne vais pas accepter de gens qui ont des maladies mentales ou des dysfonctionnements mentaux. Par exemple, j'ai eu, au début, quand j'ai commencé, j'ai eu une anorexique et j'ai dû arrêter parce que je me sentais pas compétent ou la légitimité de traiter ce genre de personnes. Donc, je vais travailler avec des gens qui vont bien. Et bon, c'est un peu comme dans Knock, hein. Enfin, c'est une boutade, mais les gens qui vont bien sont des gens qui vont mal, qui s'ignorent. Non, mais c'est pas vrai. Mais même si on va bien, on a parfois envie d'améliorer des choses ou on a des choix à faire et on sait pas, on hésite entre plusieurs choses. Donc, c'est là que moi, je vais intervenir. Vous hésitez entre rester dans votre boulot ou changer d'orientation. C'est souvent des questions de l'ordre affectif aussi, de l'ordre du déménagement. Énormément de gens se posent des questions par rapport à leur réorientation, que ce soit professionnel, affectif ou autre. Et donc, ça va être une aide. Alors, je vais pas leur dire, là, vous devez quitter votre boulot ou vous devez, au contraire, vous devez rester. Je vais leur donner les informations qui sont liées aux différentes situations. Si vous restez dans votre boulot, ben, vous allez avoir la stabilité financière, peut-être résoudre un problème de proximité par rapport aux enfants, ou des choses comme ça. Par contre, si vous déménagez, eh bien, peut-être que vous allez vous ouvrir vers d'autres choses. Mais c'est eux qui vont décider en finalité. Je leur donne, avec le tarot, le tarot ne dit pas oui ou non, il donne des informations.
Oui.
Et donc, ça permet de préciser le questionnement et d'avoir l'ensemble des éléments. Mais en finalité, c'est toujours la personne qui décide. Et de toute façon, comme je ne suis pas dans la prédiction, la personne peut toujours dire « je suis d'accord » ou « je ne comprends pas ce que vous dites ». Oui. Ça reste une discussion.
Oui.
Donc moi, ce sont des propositions. Alors, souvent, les propositions sont pertinentes. Enfin, c'est ce que je constate, hein. C'est pas une profession de foi. La personne reste maître d'accepter ce que je dis et de le transformer ou de rebondir sur ce que je dis en disant, ah oui, c'est vrai, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est autre chose et on peut avancer ensemble.
Super. Super, super. Si, effectivement, les personnes qui viennent te voir, quand même, c'est pas juste pour boire le thé, on est bien d'accord.
Ah, ça fait partie de la séance.
Ça fait partie de la séance, d'accord.
Ma compagne sert le thé au milieu de la séance. Et d'ailleurs, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que j'avais des gens en consultation, une personne en consultation, et justement, elle se demandait où elle devait aller. J'étais encore en Belgique à cette époque-là, et elle se posait la question, elle est française, si elle restait en Belgique, si elle allait en France, et en France, elle avait plusieurs endroits. Et on tournait en rond. Et donc, on parvenait pas à se décider pour savoir ce qui était, enfin, où aller. Et puis, ma compagne rentre avec le thé.
Oui.
Et parce que on sert une tasse de thé comme ça fait un petit break. Mm-hmm. Et puis je lui demande comme ça sans savoir ce que je faisais. Et toi, tu irais où? Et elle me répond à Caen. Bon, il y a pas grand monde qui irait à Caen. Mais bon, excusez-moi pour les Canois, c'est ça qu'on dit. J'ai pas les Cantais. et du coup, j'ai pu dire à la dame, mais tu vois, le problème c'est pas où, c'est quand. Et ça a débloqué.
Super.
Donc, tout est signifiant dans le tirage. Il y a les cartes, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour.
Ouais.
Donc, j'aime bien entendre les bruits. Quand il y a quelqu'un, il y a un téléphone qui sonne, je vais souvent demander quel est le message qui est lié à ça.
D'accord.
Dans une conférence, par exemple, j'avais demandé aux gens, je dis souvent au début de la conférence, vous pouvez garder vos téléphones allumés. Déjà, ça interpelle, hein, parce qu'ils ne s'attendent pas à ça.
Mm-hmm.
Mais je leur dis, si le téléphone sonne, dites-nous ce qu'il y a comme information. Et puis, il y a un téléphone qui sonne, et je demande à la personne, alors c'est quoi ? Elle dit, ah, mais c'est mon mari qui me dit qu'il n'a plus de batterie. Et puis, je regarde mon PC, parce que c'était une présentation avec un PowerPoint, et puis je vois qu'il n'était pas sur secteur. Donc, elle m'a annoncé que mon PC allait bientôt se décharger. Ça m'a permis de le remettre sur secteur et de continuer ma conférence.
D'accord, donc ça crée des synchronicités, en fait.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est génial.
En fait, c'est la clé pour moi. Le tarot tel que je l'utilise, c'est un capteur ou un générateur de synchronicité. Si vous prenez la définition de la synchronicité, c'est quoi une synchronicité? C'est du hasard qui a du sens pour la personne qui regarde. Eh bien, le tarot, c'est exactement ça. Le tarot, c'est des cartes qu'on tire au hasard et ça a du sens pour la personne qui consulte. Donc, pour moi, le tarot, c'est un générateur de synchronicité. Alors, je sais plus qui a écrit... que le jour où on pourra créer des synchronicités, on deviendra maître du monde. Alors, je crois pas qu'on en est là, mais quand même, avec un outil pareil, on a quand même quelque chose, on a un outil pour percevoir de l'information, de l'invisible au travers des synchronicités. Mmh. Alors qu'une synchronicité classique, on est obligé d'attendre qu'elle se produise. Tandis qu'ici, on peut la provoquer ou la capter. Hein, ça, c'est selon les croyances. Mais en tout cas, on a de l'information qui provient du hasard avec le tarot.
Bon, super. Eh bien, écoute, en parlant de synchronicité, on va se refaire une petite pause musicale, si tu veux bien. Hein? On va écouter M, je dis M.
Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis je la jette. je dis hey, hey, hey. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant, je dis hey, hey. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant.
Ça va bien aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices. Voilà, pour ceux qui prennent l'antenne actuellement, nous sommes avec notre invité Marc Maurice. Ça va toujours bien ?
Oui !
Super ! C'est génial. Bien, alors Marc, justement, j'aimerais que tu me racontes un petit peu. Ok, bon, les personnes, elles ont des questions. Bon, elles viennent, ok, elles viennent boire le thé, il y a des synchronicités, etc. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as des retours? Est-ce que, je sais pas, est-ce que, oui, elles te recontactent pour autre chose ou, voilà.
Ah oui. Alors, les personnes ne reviennent pas souvent. Alors, deux explications. Soit je suis super doué et je leur fais du bien. Soit je suis nul et elles ne reviennent pas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est la deuxième hypothèse qui est pas vraie. Non, enfin, je sais plus laquelle. Mais enfin, y a des gens qui reviennent, mais pas souvent.
Ouais.
Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent voir ce que c'est. Donc, comme je disais, je prends pas les gens en thérapie. Il y a des gens curieux qui viennent. Et puis, je donne beaucoup, hein. Je donne tout ce qui vient. Et parfois, derrière, il y a un gros travail à faire. Donc ça, moi, je m'en occupe pas. Je donne des clés pour que les gens découvrent des choses. Et quand les gens reviennent, c'est souvent après 3-4 mois. Mais je prends pas quelqu'un 10 séances d'affilée, par exemple. C'est une séance, et puis on attend, on laisse passer du temps. Et puis, ils reviennent éventuellement. Il y a également beaucoup de gens qui parce que je donne des formations aussi, donc ils sont intéressés par ma façon de tirer le tarot. Et j'ai beaucoup de thérapeutes qui se posent la question, tiens, est-ce que ça pourrait être un outil complémentaire avec ce que je fais?
Ouais.
Et qui viennent me voir. D'ailleurs, il y en a dans la salle.
On ne citera pas de nom, hein, voilà.
On est là entre entre amis.
C'est ça.
Invisibles. Et donc, les gens sont intéressés par la façon dont je travaille. Ils trouvent ça pertinent. Il y a des révélations et donc ils ont envie de découvrir. Et j'ai souvent des gens qui s'inscrivent à mes formations après être venus à une séance découverte. Ça c'est une façon quelque part de créer de la du retour, mais j'ai de bons retours, c'est-à-dire que les réactions des gens en général sont plutôt positives, mais j'ai pas énormément de gens qui reviennent, mais je cherche pas non plus, je pense, à fidéliser entre guillemets.
Oui, t'es
gens.
Pas dans cette dynamique là, quoi.
Non,
c'est pas ce que tu demandes, quoi.
Non. Après, je fais aussi des jeux de développement personnel, etc. Donc, souvent, les gens reviennent, mais dans une activité complémentaire, pas pour une deuxième séance. Ou alors, comme je dis, après 6 mois, non, ça arrive qu'on refasse un bilan. En plus, je développe de nouveaux outils régulièrement, et donc, parfois, les gens ont envie de découvrir, et je leur refais une séance avec ces nouveaux outils.
D'accord, c'est quoi tes nouveaux outils?
Alors, j'ai créé une série d'outils basés sur le tarot. C'est-à-dire quand parfois j'ai une séance et je me dis mais c'est chouette ce qui s'est passé. J'ai envie d'en faire une sorte de protocole. C'est-à-dire que je travaille de façon très intuitive. Donc je suis pas une méthode particulière. En fonction des demandes des gens, je vais faire les tirages d'une façon ou d'une autre. Et parfois à la fin de la séance, je me dis mais ça c'est chouette. J'aimerais bien refaire ça avec d'autres. Et donc j'ai créé notamment un protocole que j'ai appelé protocole 15. 15, c'est la carte du diable qui représente l'inconscient dans le tarot, parce que je trouvais que c'était un bon travail sur l'inconscient. Et c'est un protocole qui permet de reprogrammer des croyances. Donc, on a en nous des petits gardiens, et ces gardiens nous défendent notre psyché, mais sur base de croyances. Et parfois, quand on a un comportement inadéquat ou un toc ou quelque chose qui nous dérange, hein, on s'énerve trop rapidement alors qu'on voudrait rester calme, ce genre de comportement, c'est souvent une partie de notre psyché qui nous envoie ce comportement pour protéger des valeurs qu'on a en nous. Et donc, l'idée, c'est d'aller discuter avec cette partie, de voir quelles sont les valeurs qu'elle protège, et de lui proposer d'autres fonctionnements pour protéger ses valeurs. En faisant le tri entre les valeurs et les croyances, ça permet, les gens acceptent davantage de transformer, parce qu'ils ont peur qu'on touche à leur personnalité, ils ont raison, donc ils ont peur qu'on touche aux choses qu'ils défendent, mais la façon dont ils les défendent, ça, ils sont prêts à le changer.
Ok, super. Moi, je voudrais juste parler, effectivement, bon, voilà, ça fait quelques temps que l'on se connaît, n'est-ce pas? Et moi, j'aime beaucoup ton approche, justement, par rapport au tarot, ton approche humaniste. Moi-même, hypnothérapeute humaniste, donc forcément, il y a des choses où on est en résonance. Et ce que j'aime beaucoup et ce que tu transmets, tu vois, par exemple, bon, ben là, on est en antenne, hein, on est à la radio, on n'est pas en vidéo, donc on peut pas voir les cartes, hein, on est bien d'accord, pour montrer aux auditeurs.
Voilà, je la montre.
Ouais, vous tu la montres. Ouais.
Ah non, ouais. Ils voient pas.
Ah.
Non, vous voyez pas. Bon, ils voient pas. Ah, il y en a qui ont vu. Que ceux qui ont vu après l'émission. On cherche des collaborateurs invisibles pour les prochaines émissions.
Mais tu vois, par exemple, tu nous parlais du diable.
Ouais.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on peut, avec certaines cartes, tu vois, avoir une sorte de croyance, de jugement. Enfin, ouais. Tu vois, on prend le diable. Ah, mon Dieu, ah, j'ai tiré le diable. Ah, mon Dieu. Enfin, tu vois, voilà. Et en fait, effectivement, la personne peut dire, bah ouais, il y a un côté négatif, mais tu vas plus loin que ça, c'est qu'il y a toujours le côté positif. C'est-à-dire, tu vois, la balance entre ok, négatif, positif, et qu'est-ce qu'il en ressort. Et c'est toujours, voilà. Et ça, je... Ouais.
Ouais. Déjà, le diable, il est sur un podium, donc, enfin, sur une sorte de piédestal. Donc, on pourrait dire qu'il est hautain. Mais comme il est hautain, c'est un diable hautain. Et comme c'est un diable hautain, il est tout petit.
C'est ça.
Et donc, on va jouer là-dessus. C'est-à-dire que la vision qu'on a sur les cartes influence leur énergie. Et donc, moi, j'aime bien jouer sur les mots. Hein. Mais surtout, sur le sens des cartes. Alors, quand on pratique, il y a des gens qui pratiquent le tarot en disant il y a des cartes positives, des cartes négatives. On va les mettre à l'endroit, à l'envers. Moi, je travaille toujours les cartes à l'endroit. Et je me suis fait une grille de lecture sur les cartes avec que des mots positifs. Donc, quand je fais un tirage, il n'y a que du positif qui peut sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne vient avec un questionnement et un problème, on est déjà dans la solution, puisque je ne vais pas lui dire « Oui, ce problème, il est lié à un autre problème, à une blessure, machin chouette. » Je vais dire « Pour ce problème, on va le voir comme une solution. On va voir quelles sont les solutions et on est déjà... » dans quelque chose de différent. Donc c'est vrai que j'ai on m'a déjà dit que j'étais excessivement positif. Bon, moi je crois pas, hein, parce que je peux être négatif aussi. D'ailleurs cette personne voilà, je vais pas vous dire ce que je lui ai dit, mais bon, voilà.
C'était très positif.
c'était extrêmement positif parce que ça lui a permis d'évoluer.
Voilà.
En fait, mais alors c'est rigolo parce que même si je dis quelque chose de négatif, je le dis avec bienveillance.
Oui.
Et ça devient positif.
Oui.
Donc si je te dis, voilà, Sophie, il faudrait quand même que tu fasses un régime, hein, parce que là, tu commences à... c'est rigolo parce que c'est pas vrai. Hein, comme les auditeurs ne voient pas, elle est super, hein, Sophie, je vous dis.
Merci.
C'était quoi la question?
C'est pas moi qui dois faire un régime.
ça va, Sophie? Comment tu te trouves aujourd'hui?
Attends, je sors mes cartes.
Alors, Sophie... Chers auditeurs, Sophie est en train d'augmenter sa confiance en elle de façon exponentielle. Donc, attention, pour les prochaines émissions, vous n'allez pas la reconnaître.
Voilà. Merci. Merci, Marc. Oui, donc oui, c'était au niveau de ton approche, c'est-à-dire que oui, on peut effectivement interpréter avec quelque chose de, au départ de négatif. Bon, on met en lumière l'ombre, entre guillemets, moi j'appelle ça comme ça.
Ouais.
Et du coup, ce qu'il en ressort, c'est que de toute manière, ça ressort, c'est positif.
C'est ça.
De toute manière.
Voilà, alors voir les choses positives, c'est pas cacher le négatif.
Non.
C'est le contraire, comme tu dis, c'est
oui.
le mettre en lumière.
Oui.
C'est-à-dire que dans les formations, par exemple, on fait un travail sur les 7 péchés capitaux et pour voir quelle est la qualité de ces 7 péchés. Donc, la qualité, c'est pas l'opposé. Donc, par exemple, quelqu'un qui est gourmand, eh bien, c'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui aime avoir du plaisir, c'est quelqu'un qui aime être en société, parce qu'un gourmand, il va pas manger tout seul, il a envie qu'il y ait un banquet avec des amis, une bonne table et qu'on rigole, etc. Et donc, il y a plein de qualités.
Ouais.
Et c'est ça qu'on va mettre en avant, c'est-à-dire la qualité des défauts. Et du coup, ça permet de voir une situation a priori comme bloquante ou négative ou dévastatrice comme quelque chose de positif parce que ça permet un changement. Mais surtout, il faut pas tellement changer notre façon de réagir aux choses, c'est surtout notre regard. Rien qu'en changeant notre regard, on voit les choses différemment et donc on arrive à de nouvelles solutions. Souvent, les blocages sont des blocages artificiels. Et simplement parce qu'on voit... Donc, quand il y a un obstacle devant vous, qu'est-ce qu'on dit? On dit on va franchir l'obstacle. Et puis, on escalade et ça nous prend des mois, des années, et puis on franchit l'obstacle. La première façon, c'est de contourner l'obstacle. Hein, c'est comme avec la ligne Maginot pendant la guerre.
Oui.
Là, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais bon, il y avait des bunkers un peu partout et les Allemands, ils sont juste passé à côté et les bunkers ont servi à rien. Ben, là, c'est contourner l'obstacle. La troisième possibilité, parce qu'on est dans l'ordre de la psyché, dans le domaine de la psyché, c'est simplement de réduire la taille de l'obstacle. Et puis, on peut passer et même de diminuer l'obstacle et de le supprimer. Parce que les obstacles, même si on croit qu'ils viennent de l'extérieur, ils viennent souvent de l'intérieur. C'est intéressant aussi de se dire, quand il y a quelqu'un qui vous énerve, pourquoi cette personne m'énerve? Alors, il y a peut-être de très bonnes raisons et vous avez peut-être raison de vous énerver. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que cette personne fait, mais il n'y a pas de raison que ça vous énerve. Donc, si ça vous énerve, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez vous aussi. Et souvent, l'obstacle qui est à l'extérieur correspond à une vision qui a créé l'obstacle à l'intérieur. En travaillant sur cette vision, les obstacles disparaissent. C'est le principe des synchronicités. Synchronicité, c'est... Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des éléments qui souvent extérieurs qui sont en phase avec votre intérieur. Vous pensez, je sais pas moi, à manger, et puis vous avez quelqu'un qui passe avec un sandwich devant vous. Enfin, c'est un bête exemple, mais voilà, c'est de cet ordre-là. Eh bien, si vous travaillez votre état intérieur, les synchronicités vont changer, puisque c'est des événements extérieurs qui sont en phase avec votre intérieur. Donc, en travaillant votre intérieur, vous allez changer le monde extérieur. Donc, c'est très, très puissant. Et on n'a pas besoin de vouloir changer son voisin. Il suffit que soi-même on change pour que son voisin change ou nous embête plus ou aille embêter d'autres personnes si on était en conflit avec lui.
Tout à fait. Bon, sur ces très belles paroles, merci Marc. On va faire là aussi une pause musicale. Et justement, on va rester dans l'amour, avec Grand Corps Malade et Mais je t'aime.
Ne me raconte pas d'histoire, tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop, tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime. je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit, attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous, on a oublié qu'au final le feu, ça brûle.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime,
je t'aime,
mais je t'aime,
je t'aime,
je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Mais
je t'aime,
je t'aime, je t'aime,
je t'aime,
je t'aime, je t'aime,
je t'aime
le plus fort que je peux.
Je t'aime
et je fais de mon mieux. Marc, ça va toujours bien ?
Oui.
Ah là, chers auditeurs, chères auditrices, pour ceux qui arrivent maintenant, vous êtes bien à l'émission « Comment ça va bien aujourd'hui ?» Et là, aujourd'hui, nous parlons avec Marc Meurice de Tarot, le Tarot de Marseille. Et d'ailleurs, en parlant du Tarot de Marseille, est-ce qu'il vient de Marseille, le Tarot, son origine ? Tu peux nous dire un petit peu ?
Alors, il s'appelle Tarot de Marseille parce qu'il a été diffusé par des imprimeurs marseillais en grande quantité. Mais il est antérieur à cette diffusion. Donc, c'est la puissance, disons, des imprimeurs marseillais qui a fait que le tarot s'est répandu. Et donc, on a appelé ça Tarot de Marseille. Mais en réalité, le tarot vient d'Italie, principalement. Alors, c'est l'avis des historiens. Hein. Mmh. Donc, si vous demandez à des ésotériques, ils vont vous dire que ça vient de Chine, d'Égypte, de Belgique. Non, c'est pas ça, on pourrait.
De Corse sur Seine.
Ou de Corse. Mais historiquement, donc, c'est ça que je vais relayer ici. C'est le tarot est apparu en deux faces, parce que dans le tarot de Marseille, il y a deux parties. Il y a les arcanes majeures, qui sont 22 cartes illustrées avec des personnages et des petites scénettes. Et puis, il y a les arcanes mineures, qui sont soit dans le tarot de Marseille illustrées, mais avec des objets. Donc, on voit 3 épées, 4 épées, 5 épées. Il n'y a pas de scénettes. Et alors, il y a d'autres tarots, notamment le Rider-Waite, qui est d'origine anglo-saxonne, où là, les arcanes mineures ont été illustrées également. Mais quand on parle de tarot de Marseille, en général, on parle du tarot dont les 22 arcanes majeures sont illustrées et les arcanes mineures qui correspondent aux jeux de cartes traditionnels, à part qu'il y a un cavalier en plus, donc il y a, au lieu de 52 cartes, il y en a 56, ne sont pas illustrés. Alors, ces deux parties sont apparues à des époques différentes. Donc, les arcanes mineures sont apparues vers 1350. On a une date assez précise, là, je la connais plus exactement, parce que à cette époque-là, l'Église, et donc la royauté qui relayait ça, interdisait les jeux de hasard, parce que le hasard, c'était la prérogative de Dieu, donc les humains pouvaient pas jouer à des jeux de hasard. Et ces jeux étaient listés. Avant 1350, on listait pas les cartes. Et à partir de 1350, les cartes à jouer sont rentrées dans la liste. Donc, on estime que les arcanes mineures, les cartes à jouer, sont apparues à peu près à cette époque-là, ou en tout cas, sont devenues suffisamment présentes pour qu'elles soient interdites par l'Église et la royauté. Les arcanes majeures, par contre, c'est apparu vers 1440, donc dans le Quattrocento, en pleine Renaissance italienne. Et on voit que dans les cartes, il y a à la fois une influence classique, hein, avec les vertus cardinales, par exemple, qui datent de Platon, et une influence catholique. C'est vraiment un mélange des deux, et avec une ouverture qui est quand même intéressante, parce que, en principe, bon, évidemment, les catholiques peuvent rejeter, parce qu'il y a le diable et des choses comme ça, le jeu. Mais d'une façon générale, le diable, il est un peu ridicule. Donc, il n'est pas plus agressif que les gargouilles sur les églises. Donc, mettre le diable dans le tarot, c'est comme mettre une gargouille sur une église. Donc, à mon avis, les catholiques qui sont pas sectaires, je dirais, normalement, le tarot, ils peuvent l'utiliser. Mais le tarot est suffisamment ouvert pour qu'il n'impose rien. Donc, vous pouvez être bouddhiste, hindouiste, catholique, juif, non pratiquant, athée, agnostique. C'est un outil qui peut être utilisé.
D'accord.
Parce que la clé, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le tarot, il n'y a pas eu de bouquin explicatif à l'origine. Donc, il y a des tas d'auteurs qui ont expliqué le tarot, mais suivant leur point de vue. Donc, il y a par exemple des kabbalistes qui vont vous dire que les 22 arcanes sont liés aux 22 lettres hébraïques. Mais historiquement, il y a aucune preuve que les créateurs du tarot connaissaient les lettres hébraïques. Par contre, si vous connaissez, puisqu'il y a 22 lettres hébraïques, 22 arcanes majeures, donc on peut faire un lien, si vous connaissez les lettres hébraïques, vous pouvez faire le lien avec les cartes du tarot. Les gens qui prétendent que les créateurs du tarot connaissaient les lettres hébraïques parce que c'est tellement évident que le sens est semblable, à ces gens-là, les historiens vont répondre « Oui, mais regardez chez les Anglais, ils ont permuté deux cartes, mais surtout, ils ont tout décalé. » C'est-à-dire que Aleph, qui est la première lettre, chez les Anglais, correspond au Ma, tandis que chez les francophones, Aleph correspond au Butler. Donc, l'argument qui dit « C'est tellement évident le lien entre les cartes et les lettres hébraïques », il tombe parce que si vous êtes dans le système anglo-saxon, toutes les cartes sont décalées. Il n'y a pas une lettre qui correspond à la même carte. Donc, ça se vide de son argumentaire. Et au niveau historique, il n'y a absolument rien qui prouve que les créateurs du tarot connaissent ça. Je pense même qu'ils n'avaient pas spécialement une grande connaissance occulte, parce que le tarot a été créé en synchronicité. C'est-à-dire que même les cartes ont été choisies un peu au hasard. Il y a des trous. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, les quatre vertus cardinales, en fait, il n'y en a que trois dans le tarot. Après, on récupère en disant « oui, mais la quatrième est cachée », etc. Mais on peut aussi dire que la quatrième est simplement absente, parce que les gens qui ont créé le tarot, c'était un détail pour eux. Donc, ça, c'était pas très grave. C'est un peu aléatoire. Et toujours un historien, j'ai entendu une conférence là-dessus récemment, qui expliquait l'origine du mot « tarot ». Ou tarocco en italien. Là aussi, les ésotéristes vous disent plein de belles choses. Ça vient de rota, qui veut dire la roue, ou tora, qui veut dire l'enseignement juif, etc. Et en fait, d'après lui, tarot, ça vient de tara, qui veut dire fou, c'est-à-dire comme en français, taré. Parce que les premiers joueurs de tarot étaient considérés par les autres comme des fous.
D'accord.
Donc, c'est pas du tout... C'est tout le contraire de quelque chose qui a une puissance, je dirais, spirituelle, ou un enseignement spirituel élevé.
D'accord. justement, par rapport où tu parles beaucoup des 22 cartes majeures, et tu parles pas des mineures.
Ouais.
Pourquoi ?
En fait, comme je suis autodidacte, j'ai construit le sens des cartes d'après mon propre ressenti.
Ouais.
Donc, dans les majeures, il y a un empereur, ben, on voit ce que c'est un empereur. Il y a la justice, ben, on peut imaginer ce que c'est la justice. Mais là, tout à l'heure, j'ai parlé des épées. Eh bien, entre le 3, le 4, le 5 d'épée, moi, je vois pas vraiment de différence. Donc, de façon intuitive, ça me parle pas. Par contre, quelqu'un qui connaît la numérologie, par exemple, moi, je connais pas la numérologie. En fait, je ramène la numérologie au quart de tarot. Donc, si vous me dites 8, moi, je vais voir la justice, qui est l'arcane 8 dans le tarot de Marseille. C'est comme ça que je vais utiliser les chiffres. Mais quelqu'un qui connaît la numérologie, un 3 d'épée va lui parler, un 4 d'épée va lui parler, parce qu'il a cette connaissance-là. Comme j'avais pas cette connaissance, intuitivement, ces cartes ne m'ont pas parlé, donc je les ai mises sur le côté. D'ailleurs, dans le tarot psychologique, c'est assez courant hein, que les gens qui utilisent le tarot de cette façon-là n'utilisent que les 22 arcanes majeures. Ou alors utilise d'autres jeux, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le Rider-Waite. Il y a plein de jeux maintenant qui dérivent de ce tarot où les 78 lames sont illustrées. Donc ça leur permet de continuer à raconter des histoires quelque part et d'avoir un sens intuitif sur l'ensemble des cartes. Mais pour moi, les 22 lames majeures, c'est une image de la psyché et je constate qu'avec ces 22 lames, je peux tout exprimer. C'est un peu comme si vous me disiez, il y a 26 lettres dans l'alphabet, pourquoi pas en mettre 78? Je dis, ben non, on a assez avec les 26 lettres, hein, ou les 22 lettres hébraïques. Je ne sens pas la nécessité d'en rajouter d'autres. Après, ce que je fais aussi, c'est que je travaille avec des oracles. De temps en temps, quand j'ai un tirage qui est pas clair ou je veux creuser quelque chose, eh bien je vais chercher une carte dans un autre jeu, un oracle, et la carte va donner de l'information complémentaire.
D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer tes formations? Ça se passe une seule fois, deux fois?
Ça se passe bien
en
général.
Ouais, ça se passe bien.
Ouais,
ça va.
Bon, alors les formations, j'ai différents modèles. C'est soit des après-midi. En général, c'est 4 jours entiers, mais ces 4 jours entiers peuvent être répartis de façon différente, soit sur 8 après-midi, soit sur 4 dimanches, par exemple, ou 4 jeudis, soit sur des séminaires concentrés de 4 jours. J'aime bien les formations étalées parce que malgré tout, il y a rien à faire. Après la formation, les gens sont pas formés. C'est même plutôt une initiation qu'une formation, en ce sens que si vous voulez utiliser le tarot, il faut le pratiquer. Donc c'est pas en le pratiquant 4 jours qu'on peut devenir tarologue. Moi, je l'ai pratiqué 10 ans avant de commencer à faire des tirages de façon professionnelle, si on veut. Donc ça, c'est pour la structure. En général, 4 jours, c'est bien. Quand c'est des séminaires condensés de 4 jours, ce que je fais, c'est que je demande en général à d'autres thérapeutes ou des gens qui sont dans le bien-être de faire des ateliers pour qu'on soit pas dans le mental pendant 4 jours. Parce que le tarot, même s'il capte les émotions, c'est un outil qui utilise la parole, c'est un outil mental. Et donc, je vais mélanger au stage de tarot des exercices de Qigong ou de Tai Chi, de la méditation, de la relaxation, des choses comme ça, des parties d'ancrage, où on travaille sur l'ancrage sur le corps et des choses comme ça, pour augmenter. Ce que je fais pas dans les formations étalées, puisque là, normalement, les gens, ils tiennent le coup une journée, et puis on se revoit la semaine d'après, et ça va.
Ils ont le temps de digérer.
Alors, au niveau, ça c'est la structure, mais au niveau du contenu, donc ce qu'on fait, c'est que je donne des outils, ce sont souvent des outils inductif, c'est-à-dire qu'on va pas analyser les cartes, on va faire des exercices, on va tirer les cartes, on va extraire du sens. Si vous voulez, par exemple, dans une séance, vous allez voir un tarologue, vous avez une question, il tire les cartes et vous avez une réponse. Et vous faites confiance à ce que disent les cartes pour avoir la réponse. Eh bien, vous pouvez très bien utiliser les cartes pour demander au tarot quel est le sens de cette carte, par exemple. C'est juste un exemple, mais on peut utiliser les synchronicités et le tarot sur lui-même. Ça, c'est un directeur commercial qui m'avait pris ça dans ma vie précédente. C'est, vous voulez vendre vos produits, ben, utilisez-les pour vendre vos produits. Il y a eu cette fameuse blague qui disait que le logo Windows avait été créé sur Mac à l'origine, et ça a fait bien rire tout le monde. Mais donc, vous voulez connaître le tarot, vous faites confiance au tarot, ben, on peut utiliser le tarot pour comprendre le tarot.
D'accord.
Donc, la première chose, c'est que je donne des exercices pour que les gens trouvent leurs propres mots sur les 22 cartes. Parce qu'on a tous des mots différents. Moi, j'ai des mots différents des auteurs classiques. C'était d'ailleurs un peu compliqué au début, quand j'ai commencé à utiliser le tarot moi-même, en autodidacte. J'ai lu un bouquin, et ça correspondait pas tout à fait. J'étais pas bien à cette époque-là. Et j'ai débloqué ça en lisant 4 bouquins en même temps. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas plus de différence entre ce que moi j'avais trouvé et entre les auteurs entre eux. Et bien donc, dans la formation, la première chose, c'est que les gens trouvent leurs propres mots à mettre sur les cartes. Après, on fait également des exercices, comme je parlais tout à l'heure du protocole 15, je présente ça aussi dans la formation. On fait beaucoup d'exercices sur soi. Et déjà, souvent, c'est déjà une mini thérapie pour les gens parce que on travaille aussi sur eux.
Donc,
il y a beaucoup de gens qui viennent à la formation pour apprendre le tarot et qui découvrent en cours de formation, même si je le dis, mais que finalement ils travaillent sur eux dès le début
Complètement.
Pour que les cartes soient, pour que les tirages soient signifiants, il faut poser des questions qui soient utiles. Mmh. Donc, on touche à l'émotion, à la personnalité, au questionnement. Et donc, dès le début, les gens sont dans le bain.
Ouais.
C'est vraiment c'est une formation, mais c'est aussi un apprentissage de s'écouter soi à l'aide des cartes du tarot.
Ouais, et puis moi, je trouve qu'il y a une connexion entre les cartes et soi. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, en fait. On pourrait venir juste par curiosité et apprendre que les cartes. Mais en fait, non, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que, OK, je découvre la justice, par exemple. Qu'est-ce qu'elle raconte de moi aussi? Par rapport à ce que je vis, etc.
Bon, j'ai parfois des gens qui viennent en observateur, mais ils restent pas.
Ouais.
Ils viennent une première après-midi, puis je les vois plus parce qu'ils pensent que je vais leur apprendre un truc et qu'ils viennent à une conférence. Mais si les gens s'impliquent pas, ça n'a aucun intérêt d'apprendre le tarot parce que le tarot, tant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, en fait, on doit être capable de tirer le tarot sur soi. Et quand on peut le tirer sur soi, on peut le tirer sur les autres. Là aussi, c'est intéressant parce que si on travaille en prédiction, on peut pas faire ça. Est-ce que dans 3 mois, je vais avoir tel ou tel problème sur soi? On peut rien faire avec ça. Tandis que, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens en forme? J'ai envie de sortir prendre l'air? Est-ce que j'ai envie d'aller me reposer? Est-ce que j'ai envie d'aller au cinéma? Ça, on peut aller voir en soi si on a les réponses. Et tirer le tarot pour ça. Alors, c'est des bêtes questions, mais c'est intéressant quand on commence de poser des questions simples. Parce que du coup, on peut tout de suite vérifier si la pertinence des tirages. En posant des questions simples, dans lesquelles il y a quand même une émotion. Si je demande, je vais acheter un big bleu ou un big vert et que ça m'est complètement égal, le tarot, il va répondre n'importe quoi. Mais si la question a une implication émotionnelle même minime, alors le tarot va répondre.
Yes. Encore quelques questions, il reste moins de 7 minutes, Marc. Est-ce que tu tires tout le temps les cartes?
Tout le temps, tu veux dire quoi?
C'est-à-dire, par exemple, dans la journée, est-ce que, voilà, dans la journée, tu tires plusieurs
Alors,
fois
je
les cartes?
Alors, je ne tire pas entre 3h15 et 3h20, c'est une sorte de croyance comme ça. mais sinon...
non, c'est vrai que j'ai mon jeu. Surtout en face de pleine lune, jamais.
Ouais. Alors, la pleine lune, c'est intéressant parce que la pleine lune est un amplificateur. Il y a la lune dans le tarot. C'est un amplificateur émotionnel. Donc, c'est intéressant de faire des choses à la pleine lune. Après, il faut juste regarder qu'on soit pas en saturation. Parce que, pour que le tarot soit pertinent, il faut qu'il y ait un minimum d'émotions. S'il n'y a pas d'émotions, ça marche pas. Mais s'il y a trop d'émotions, on a toujours l'information, mais elle est noyée, on la comprend plus. Donc il faut être dans un espace émotionnel, ni trop bas ni trop élevé, et alors ça fonctionne. Oui, je tire les cartes tout le temps parce que j'aime bien ça. Et quand je suis en voiture, par exemple, je lis les plaques de voiture parce que c'est un tirage en 3 cartes, et c'est très rigolo. Alors j'essaie pas de savoir la personne qui est dans la voiture. C'est souvent des infos sur moi. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais alors, ça paraît presque de l'addiction, mais je suis aussi un chercheur. Donc c'est comme si un chercheur en botanique, il va se promener dans la forêt, il va tout regarder. Donc moi, c'est comme ça que je le vois.
Tout à fait.
On m'a souvent reproché d'en faire trop, mais pour moi, c'est une recherche.
Ouais.
Et c'est une inversement, c'est aussi un outil. Donc moi, j'utilise le tarot pour lire la psyché, comme des gens utilisent un stylo pour écrire. Et quand on me dit « tu peux pas le faire sans ton tarot », je dis « ben oui, mais tu peux pas écrire sans ton stylo ».
Ok Marc, tes séances durent combien de temps en consultation?
Alors ça dépend. Alors typiquement, je laisse des créneaux de 2 heures.
Okay.
Ça dure pas spécialement 2 heures. J'annonce aux gens entre 1 heure et 2.
Okay.
On se rapproche souvent de 2 heures. Mais j'arrête la séance à 2 heures vraiment si si j'ai quelqu'un après. Si j'ai personne, je peux même déborder. Okay. Mais j'arrête en général la séance quand les personnes ont fait le tour ou qu'on sent qu'il y a une saturation, c'est-à-dire que il y a besoin d'un peu d'émerveillement pour que ce soit efficace aussi. Donc quand ça devient quelque chose de trop systématique, eh bien quand je vois que l'intention ou l'émerveillement descend à ce moment-là, c'est souvent intéressant. Quoi, c'est presque la fin de l'émission.
Presque. Alors du coup, ton tarif.
Alors, j'ai des tarifs indicatifs parce que je travaille en participation consciente.
D'accord.
Donc, je donne des prix indicatifs, mais c'est pas ce qu'on m'a demandé au début. C'était juste participation consciente, mais on m'a souvent, les gens ne s'allaient pas avec ça. Donc, je donne un prix indicatif en disant que le prix est lié à la qualité de ce que je donne, mais aussi aux moyens de la personne qui vient consulter.
Ok.
L'avantage, c'était pour moi à la base. Hein, ça peut paraître altruiste, mais moi, ça m'a permis de pas me poser de questions sur la légitimité, etc. Dans le tarot, de toute façon, il n'y a pas de diplôme, donc on ne peut pas dire, je ne peux pas afficher la liste de mes diplômes pour dire, regardez tout ce que j'ai fait. Et
le temps passe vite. Quelques coordonnées, Marc ? En antenne ? On peut te joindre à quel numéro ?
Les coordonnées sont en général les plus mal chaussées, donc...
Ouais. Bien répondu. Non, un numéro de téléphone, une adresse peut-être.
Je connais pas par cœur moi.
Ah.
Alors vous contactez l'émission.
Oui. Comment
comme
ça va bien
comme ça,
aujourd'hui.
Tous les gens de l'émission seront au courant et viendront me consulter.
C'est ça. Donc Marc Meurice, on te retrouve sur Facebook éventuellement.
Ah oui, ça c'est marc.meurice, bon. Je sais plus quoi.
Yes. Bon, super.
Et j'ai un site, c'est yapa.
Ouais.
.be comme Belgique.
Yapa. .be.
Ouais, .be. En fait, à la base, c'est parce que je voulais faire une galerie photo et on avait appelé ça Yapa Photo. Et puis, on s'est dit, on va mettre aussi des sculptures. Donc, il y avait Yapa Sculpture, etc. Et donc, on a juste créé Yapa pour pouvoir tout accueillir. Et puis, quand j'ai créé mon site, j'avais besoin d'un nom de domaine. J'ai dit, tiens, il y a Yapa qui est là. Donc, on va prendre Yapa.
Bon, merci beaucoup, Marc. Ce fut un plaisir.
Ah, il n'y a pas de quoi.
Non, c'est... Il fallait que tu la sortes, celle-là. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. C'était Comment ça va bien aujourd'hui avec Marc Meurice. Merci, Jack. Et puis, je rends l'antenne. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Je vous aime. Si drôle sur un coin d'épaule oh oui si drôle regard qui frôle quelquefois si seul parfois elle le veut, oui, mais si seule.